Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Aristide pour vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui, en ce lundi 22 novembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce soir. En République démocratique du Congo, gros déploiement policier à Kinshasa où une manifestation a été interdite. Au Soudan, libération d'un groupe d'hommes politiques détenus depuis le putsch. Au Venezuela, écrasante victoire du pouvoir aux élections régionales. Voiture bélier lors d'une parade de Noël aux États-Unis, au moins 5 morts et 40 blessés. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Au Burkina Faso, moins 9 gendarmes ont été tués hier à Foubé dans le nord lors d'une attaque attribuée à des djihadistes. Bilan encore provisoire. C'est le détachement de gendarmerie de Foubé qui a été visé. De nombreux éléments sont toujours portés disparus alors qu'une dizaine de rescapés ont été retrouvés ce matin. Cette nouvelle attaque contre un détachement de gendarmerie est intervenue une semaine après celle d'Inata, également dans le nord, au cours de laquelle au moins 53 personnes, dont 49 gendarmes, ont été tuées. En République démocratique du Congo, les forces de l'ordre se sont déployées en force à Kinshasa aujourd'hui pour empêcher la tenue d'une manifestation non autorisée de l'opposition, dont plusieurs militants ont été interpellés. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dès les premières heures de la matinée, les forces de l'ordre avaient bouclé tous les accès au siège de la CENI sur la principale artère du centre-ville. Divers partis et mouvements, dont les associations catholiques et protestantes, avaient appelé à un sit-in pour protester contre ce qu'elles qualifient de politisation de la CENI et la nomination à sa tête de Denis Kadima, qu'ils jugent trop proche du président de l'État, Félix Tshisekedi. Bobo, une manifestante, est venue pour faire entendre sa voix.
Nous voulons un processus électoral transparent. Il faut une personne neutre pour des bonnes élections.
Cette manifestation n'a pas été autorisée par les autorités de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo, chef de la police, a décidé de maintenir le dispositif policier toute la journée. Une mesure dénoncée par Fidel Likinda, député national pro-Kabila. Il y a eu plusieurs interpellations.
Toujours en RD Congo, des dizaines de personnes ont été tuées la nuit dernière dans des attaques de villages et d'un camp de déplacés en Ituri, dans le nord-est du pays. Bilan fourni par un militaire qui a requis l'anonymat. Les experts du baromètre sécuritaire du Kivu chiffrent de leur côté au moins 107 le nombre de corps retrouvés. Selon eux, la grande majorité des morts sont des civils. Ils indiquent également que des attaques ont été menées par des miliciens du groupe Codeco ou coopérative pour le développement du Congo, constitué de membres de la communauté Lendu. Des membres de la communauté rivale Emma étaient majoritaires dans le camp de déplacés attaqués dans le village de Drodro. D'après les mêmes sources, l'ennemi est allé jusqu'à incendier un camp de déplacés. Ça constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité, a déploré le lieutenant Jules Gongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Le procès pour complicité d'un ex-chauffeur franco-rwandais accusé d'avoir sciemment aidé des tueurs lors du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda s'est ouvert à Paris aujourd'hui. Troisième procès en France pour des crimes liés à l'une des pires tragédies du XXe siècle. Claude Mouyaïmana, 60 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est réfugié en France, dont il a obtenu la nationalité il y a plus de 10 ans. Cantonnier à la mairie, il vit à Rouen. Il y avait été arrêté en 2014, un an après l'ouverture d'une enquête initiée par une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda qui lutte contre l'impunité et la présence en France de présumés génocidaires rwandais. Au Soudan, les autorités ont libéré des hommes politiques détenus depuis le coup d'état militaire du 25 octobre. Elles réalisent ainsi une clause clé de l'accord conclu hier entre les généraux et le premier ministre réinstallé Abdallah Hamdok. Le point avec Rosine Mounezero.
J'ai été libéré tard dimanche soir alors que j'étais détenu à l'isolement depuis le 25 octobre, complètement coupé du monde, a déclaré Omar Al-Daghir, chef du parti du Congrès. Il avait été interpellé à l'aube le jour du coup d'État en même temps que de nombreux responsables civils soudanais. Le premier ministre Abdallah Hamdok, arrêté puis placé en résidence surveillée, est apparu en public dimanche pour la première fois depuis le putsch. Il a signé avec le général Bourane un accord en 14 points qui prévoit notamment son retour au poste de premier ministre et la libération des responsables civils détenus. L'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont déjà salué cet accord. Ces dernières semaines, les Soudanais ont défilé par dizaines de milliers contre le pouvoir militaire et réclamé la libération des dirigeants civils. Certains ont déchiré dimanche le portrait du Premier ministre, perçu comme un traître à la révolution de 2019.
Et moi, en Guinée, après la mort d'une jeune femme à des suites d'un viol présumé par des médecins dans une clinique privée de Conakry, la jeune femme, Massila, une célibataire diplômée en secrétariat de 25 ans, est décédée samedi à Tunis, où elle avait été évacuée pour des soins après le viol. C'est ce qu'indique le gouvernement guinéen dans un communiqué. Trois médecins sont détenus depuis le 14 octobre dernier. Ils sont inculpés de viol, avortement, administration de substances nuisible, risque causé à autrui et complicité. Un autre individu est en fuite et il est activement recherché. Le Kenya instaure le pass sanitaire. En vertu d'une nouvelle réglementation, les Kenyans devront prouver qu'ils sont entièrement vaccinés contre le Covid-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars et les restaurants. Le pays exigera le certificat de vaccination à partir du 21 décembre prochain et prévoit une campagne d'inoculation massive de 10 jours à partir de ce vendredi, indique le ministre de la Santé, Mutahi Kwagwi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Venezuela, le pouvoir du président Nicolas Maduro, dont la réélection à la tête du pays il y a 3 ans n'est pas reconnue par une partie de la communauté internationale, a remporté une victoire écrasante aux élections régionales d'hier. Son camp a remporté 20 des 23 postes de gouverneur et la mairie de Caracas. Davantage avec John Lyndon.
Selon le Conseil national électoral, les candidats socialistes ont remporté les postes de gouverneur dans 20 des 23 régions et la mairie de la capitale Caracas. Le président Maduro a qualifié les résultats des victoires historiques pour la révolution. Seuls 41,8% des électeurs inscrits, soit quelque 8,1 millions de personnes, se sont rendus aux urnes dimanche. 23 gouverneurs, 335 maires, 253 législateurs de conseil d'État et 2471 conseillers municipaux étaient en lice. Plus de 130 observateurs, principalement de l'Union européenne, ont surveillé le vote. L'Union européenne avait déployé une mission électorale, la première depuis 15 ans dans ce pays pétrolier de 30 millions d'habitants, touché par une grave crise économique. Selon les résultats officiels provisoires, avec 90,21% des votes comptabilisés, l'opposition a remporté 3 régions, dont celle de Zulia, où se trouve la deuxième plus grande ville du pays.
Ici aux États-Unis, les autorités enquêtent sur la tragédie qui a frappé la ville de Waukesha, où un véhicule a percuté la foule d'une parade de Noël, faisant au moins 5 morts et 40 blessés. L'État du Wisconsin redoute une aggravation du bilan des victimes, vu le nombre élevé de personnes hospitalisées. Un suspect est détenu. Il a été identifié comme Darrell Brooks Jr., un homme de 39 ans qui a des antécédents judiciaires. Compte rendu, Nathalie Barge.
Selon des témoins, le 4-4 a fait irruption dans la parade derrière un groupe de musiciens scolaires. La police a tiré sur le véhicule pour tenter de l'arrêter. La parade de Noël se déroulait lorsqu'un 4-4 rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Street, a relaté le chef de la police, Dan Thompson, précisant que la voiture a renversé plus de 20 personnes, dont des enfants. Une enquête est en cours, a ajouté M. Thompson, disant qu'une personne d'intérêt avait été arrêtée. L'homme, soupçonné d'être le conducteur du nom de Darrell Brooks, a plusieurs antécédents judiciaires. Les écoles n'ont pas ouvert aujourd'hui et certaines routes resteront fermées pendant la durée de l'enquête. Plusieurs parlementaires du Wisconsin ont exprimé leurs condoléances et la Maison-Blanche a contacté les responsables locaux de l'État.
Et maintenant, résumé de l'actualité économique que nous présente Nani Talani.
La Banque de développement des États de l'Afrique centrale promet d'accorder 955,4 milliards de francs CFA pour l'aménagement du corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena. Ce projet de l'Union africaine, qui devrait interconnecter les trois pays, comprendra quelque 1310,311 km de corridor, 25,17 km de pénétrante et 49,7 km de voirie. Le projet de corridor, qui n'a pas encore commencé, comprendra également la construction et le bitumage des tronçons de route en terre entre le Congo, la Centrafrique et le Tchad, ainsi que la réhabilitation des tronçons de route bitumés Mbaïki-Bangui et Bangui-Bossembélé en Centrafrique. En RDC, deux comptoirs d'achat et de vente d'or ont été dévalisés ce dimanche dans la cité minière de Kamituga, dans l'est du pays, par quatre hommes armés qui se sont emparés d'une importante somme d'argent et ont tué deux militaires dans leur fuite. Deux des malfaiteurs présumés ont également été tués. Leurs complices étaient toujours en fuite lundi et le butin n'a pas été retrouvé. Pour terminer, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis samedi de nouveaux investissements au Sénégal en les présentant comme une prime à la démocratie lors de la dernière étape de sa première tournée en Afrique subsaharienne. M. Blinken a estimé dans la capitale sénégalaise Dakar que l'Afrique peut avoir un large éventail d'offres de partenariat. Il a signé des accords d'un milliard de dollars avec des compagnies américaines.
Sans plus tarder, en tour d'horizon des nouvelles sportives, nous retrouvons Yacouba Ouidraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La CAF n'a pas encore confirmé la date du tirage au sort des barrages du Mondial 2022 pour le 18 décembre. Ce malgré plusieurs fuites allant dans ce sens, quelques jours après la fin de la phase de groupe de ces éliminatoires, l'instance panafricaine dans un communiqué n'a pas confirmé l'information. Elle a toutefois signalé que les dates seront annoncées à l'issue de la réunion de son comité exécutif prévue le 25 novembre prochain au Caire. L'instance basée dans la capitale égyptienne a par ailleurs confirmé que les 10 équipes en lice seront réparties selon le classement FIFA. L'international espagnol Pedri est le vainqueur du prix Golden Boy du quotidien sportif italien Tutto Sport, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le milieu de terrain du FC Barcelone l'emporte avec la plus grande différence de vote de l'histoire en récoltant 318 voix contre 119 pour son premier poursuivant. Le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. La saison 2020-2021 a été celle de la révélation pour le jeune joueur de 18 ans, originaire des îles Canaries, qui recevra son prix le 13 décembre à Turin. Pedri y a disputé 73 matchs, toutes compétitions confondues. Il s'agit du premier joueur du Barça à recevoir ce prix, surnommé le Ballon d'Or des jeunes depuis Lionel Messi en 2005. Pedri succède ainsi à l'avant-centre norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, sacré en 2020. En Turquie, un supporter de l'équipe de football de Fenerbahçe est mort hier, victime d'une crise cardiaque, après le but victorieux inscrit à la 94e minute par son club. C'était lors du derby stambouliote contre Galatasaray. Mené 1-0 sur le terrain de Galatasaray, Fenerbahçe a égalisé à la 31e minute grâce à Mesut Özil. Mais le dénouement est arrivé dans les dernières secondes du match. Ahmed Yusal, 60 ans, se trouvait dans le café tenu par son neveu à La Seir, dans l'Ouest. Le sexagénaire fanatique de Fenerbahçe a exulté lors du second but de son équipe avant de s'effondrer, conduit à l'hôpital. Le fan de Fenerbahçe est décédé malgré l'intervention des médecins. Ici, en NBA, les Los Angeles Lakers se sont imposés 121-116 à Détroit malgré l'exclusion de LeBron James. À 9 minutes de la fin du troisième quart-temps, alors que les Pistons étendaient leur avantage à 12 points sur un lancer franc, LeBron James s'est retourné giflant au nez Isaiah Stewart au marquage sur lui. La superstar a immédiatement dû regagner les vestiaires. De leur côté, les Los Angeles Clippers ont battu les Dallas Mavericks 97-91. Au United Center, les Chicago Bulls ont pris le meilleur sur les New York Knicks 109-103. Les Phoenix Suns se sont défaits sans problème des Denver Nuggets 126-97. Golden State a signé contre les Toronto Raptors 119-104. Un 15e succès en 17 rencontres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Au Burkina Faso, c'est toujours l'incertitude autour du convoi militaire français bloqué dans le centre nord du pays depuis jeudi dernier. Un convoi de logistique venu d'Abidjan et en transit pour le Niger et Gao dans le nord du Mali selon l'armée française. Ce week-end, les quelques 60 véhicules et la centaine de soldats français s'étaient éloignés de Kaya, la ville où le convoi était bloqué depuis jeudi donc et semblait faire route vers Ouagadougou. Mais il n'est jamais arrivé dans la capitale burkinabé où des jeunes ont dressé des barricades pour l'attendre. Wézin Louis Houlon est le directeur général de Radio Omega à Ouagadougou. Au micro de Bagassi Koura, il nous donne les derniers détails.
Les dernières informations que nous avons eues avec nos contacts à Kaya, c'est que hier, en fin d'après-midi, il y a eu un concert de klaxons qui a poussé les gens à sortir et à brûler des pneus, ce qui, sous-entendait que probablement que le convoi s'apprêtait à venir. Et naturellement, les forces de défense du Burkina, de maintien d'ordre, sont allées au contact de ces manifestants. D'après nos contacts, il y a eu des affrontements et une chasse poursuite à l'intérieur des rues de Kaya. Et les manifestants qui brûlaient à côté du goudron ont commencé hier nuit à brûler sur le goudron. Jusqu'au petit matin, nous avons vérifié. Il était difficile de savoir si le convoi est effectivement passé ou pas. Mais la nervosité des manifestants suggérait que probablement le convoi n'était pas encore passé. Et je pense qu'aux dernières nouvelles, effectivement, le convoi ne devrait pas être passé.
Et que disent les autorités ce matin? Toujours le silence?
Pas de réaction officielle. Côté Paris, où on a entendu le ministre des Affaires étrangères, en tout cas qui dit attendre des autorités burkinabées, du président Kabouré, des actions concrètes.
Et donc, l'information ne filtre pas parce que les réseaux de téléphonie mobile et Internet notamment sont toujours perturbés?
Les réseaux mobiles sont perturbés et donc difficile de se communiquer. Et je pense que ça ressemble fort bien à un boycott pour empêcher que les jeunes se communiquent et s'organisent. On n'a pas de communication officielle aussi de la part des téléphonies, mais en toute vraisemblance, ça a été une manière de museler, d'empêcher l'effet contagieux. Et il reste que ces réseaux-là créent beaucoup d'énervement lorsque vous échangez avec les Ouagadougous. Il y en a qui ont des business autour de ça, les compagnies aériennes, les gens qui font des transactions, les activistes. C'est vraiment dur. Aujourd'hui, à Ouagadougou, c'est une classe d'élite qui a accès à Internet, c'est-à-dire ceux qui ont les lignes spécialisées et les Wi-Fi dédiés.
C'était le journaliste Wézin Louis Houlon, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a bouclé le week-end dernier sa tournée dans 3 pays africains. Au Sénégal, il a promis de nouveaux investissements de l'ordre d'$1 milliard avec des compagnies américaines et d'aider les pays africains à fabriquer des vaccins. Au Kenya, il a beaucoup été question de diplomatie avec les crises éthiopiennes et soudanaises. Pour faire le bilan du périple d'Anthony Blinken en Afrique, Abdourahman Dia a joint à Johannesburg la porte-parole côté langue française du département d'État américain, Marissa Scott Torres.
Bon, enfin, le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu l'opportunité de rendre visite en Afrique. C'est la première fois pour le secrétaire d'État et c'est l'opportunité d'avoir des réunions face à face, et visage à visage avec les leaders africains. On a sélectionné le Kenya, le Nigeria et le Sénégal pour cette visite parce qu'ils sont des pays qui sont démocraties, des moteurs de la croissance économique et aussi des leaders en matière de climat et des vecteurs de l'innovation.
Il a été beaucoup question de relations entre l'Afrique et les États-Unis et le secrétaire d'État a indiqué qu'il ne s'agissait pas pour les Africains de choisir entre les États-Unis et un autre pays comme la Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelle est la particularité de la coopération américaine comparée à d'autres?
Donc pour nous, l'engagement des États-Unis en Afrique protège les Américains et aussi les Africains. Donc nous adopterons une approche holistique des défis en matière de sécurité et ferons en sorte que les approches américaines de la sécurité et de la gouvernance se renforcent mutuellement et soient suffisamment complètes. Donc, on a des collaborations avec nos partenaires, dont le département de défense, la communauté de renseignement. Donc, nous passerons en revue tous nos déploiements, y compris en Afrique. Mais pour nous, l'initiative de Prosper Africa est quelque chose qui est nouveau. C'est une initiative du gouvernement américain destinée à unifier et à mettre en œuvre les éléments économiques de la stratégie des États-Unis pour l'Afrique. Donc, c'est une autre manière de faire du business avec le continent.
Et dans cette stratégie américaine concernant les investissements, quelle est la place, disons, du privé américain?
Oui, donc, quand j'ai dit le Prosper Africa, c'est une initiative du gouvernement qui vise à stimuler les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l'Afrique. Donc, cette initiative regroupe l'éventail complet de ressources du gouvernement des États-Unis pour mettre en relation les entreprises américaines et africaines avec de nouveaux acheteurs, fournisseurs, ainsi que de nouvelles possibilités d'investissement. Donc, les États-Unis et les pays du continent africain peuvent grandement bénéficier.
On écoutait Marissa Scott Torres du département d'État américain.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'état des lieux de la pandémie de COVID-19 en Afrique et dans le monde. Alors que la plupart des pays occidentaux ont entamé leur campagne de vaccination pour une dose de rappel, en Afrique, la majorité de la population n'a pas encore accès au vaccin. Et pourtant, c'est sur ce continent que le nombre de décès est le plus bas. Néanmoins, l'impact de la pandémie sur l'économie et le système sanitaire est très lourd en Afrique. Comment faciliter l'accès aux vaccins et autres types de traitements à venir, comme les comprimés de Merck et Pfizer? Devrait-on apprendre à vivre avec le virus pour permettre une relance totale des activités? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Sénégal, l'ouverture des classes est effective depuis plusieurs semaines, mais certains parents peinent toujours à assurer tous les frais scolaires de leurs enfants. La faute à une conjoncture difficile qui place les parents d'élèves dans une situation souvent très inconfortable. Le reportage de notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagay.
Des frais d'inscription souvent hors de portée, des fournitures pas toujours au complet et des priorités à prendre en charge. Cette année, beaucoup de parents d'élèves comme Alun Ndiaye font face à un dilemme: gérer la survie familiale ou assurer les frais de scolarité des enfants.
S'occuper de sa famille chaque jour est une obligation et les charges sont nombreuses. À cela s'ajoutent les frais pour la rentrée des classes. C'est très difficile pour nous les parents. Ce serait très bénéfique si l'État épaulait un peu les parents, ne serait-ce que pour faciliter les fournitures scolaires, quitte à ce que ce soit à crédit pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que la vie est vraiment dure.
Pour éviter que les enfants soient la cible des railleries à l'école, certaines mères de famille comme Maman Mbeng préfèrent sacrifier le quotidien familial.
La situation est très difficile et les temps sont durs. Rien que de subvenir à la dépense quotidienne pour assurer les trois repas, c'est compliqué. À côté, il y a les enfants qui doivent retourner en classe sans fourniture scolaire. À la limite, ça devient insupportable car on manque réellement de moyens. Des fois, on sacrifie la dépense quotidienne pour acheter les matériels scolaires parce qu'on ne peut pas se permettre de bazarder l'avenir des enfants. Il est aussi important que l'enfant ne se sente pas inférieur ni qu'il ait honte face aux autres, c'est-à-dire aller à l'école sans cahier ou stylo.
Pour que les enfants ne se sentent pas humiliés ou aient un complexe d'infériorité, des professeurs comme Madame Badji, enseignante à l'école élémentaire Amon 5 dans la banlieue de Dakar, font le nécessaire pour les mettre à l'aise.
Il y a des restants de cahiers des élèves de l'année dernière qui sont à la moitié. Donc il faut juste prendre ça, les départager, donner aux élèves et puis attendre leurs parents. Je ne vois pas le renvoi aussi normal. Il faut juste patienter à ce que leurs parents réagissent ou bien on va prendre les ardoises comme c'est efficace.
Pour soulager les parents, certaines écoles acceptent et appuient les enfants défavorisés malgré le non-paiement des frais d'inscription ou le manque de fournitures scolaires. Dans les communautés également, des actions de solidarité sont souvent menées pour doter ses enfants de sacs et de fournitures. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les autorités sanitaires continuent de faire pression pour la vaccination anti-Covid, alors que des millions de gens commencent à se rassembler en famille pour les vacances de Thanksgiving. Un reportage de Michel Quinn, relaté par Nathalie Barge.
Alors que le taux d'infection au coronavirus augmente, les autorités sanitaires encouragent un rappel pour les adultes vaccinés. On s'attend à ce que les gens voyagent à des niveaux pré-pandémiques pour rendre visite à leurs proches pendant la fête traditionnelle de Thanksgiving. Ces rassemblements comportent des risques avec 26% des personnes, dont les enfants, qui n'ont pas reçu d'injection. Le docteur Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, dans l'émission cette semaine de la chaîne ABC.
Si vous êtes vacciné, et j'espère que vous serez également boosté, ainsi que votre famille, vous pouvez profiter d'un repas typique et des vacances de Thanksgiving ensemble. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ce qui nous préoccupe, ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées, car elles sont la principale source de la dynamique de l'infection dans la communauté.
L'administration Biden a suspendu la mise en œuvre de la vaccination obligatoire sur le lieu de travail pour les entreprises de plus de 100 employés en attendant une contestation en justice. La semaine dernière, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a signé une loi imposant des amendes aux entreprises et hôpitaux qui exigent une vaccination anti-Covid sans alternative. Et Disney World a suspendu sa politique de vaccination. Ron DeSantis, lors de la signature du projet de loi.
Je pense que c'est quelque chose qui va faire une très grande différence pour beaucoup de gens. Et nous respectons la liberté individuelle dans cet État.
Selon certains observateurs, les efforts de l'administration Biden pour lier l'emploi à la vaccination sont devenus un problème politique. Le docteur Scott Gottlieb, ancien commissaire de l'administration des aliments et des médicaments dans l'émission Face the Nation de CBS.
Maintenant, c'est malheureusement devenu un combat politique au niveau national. Vous allez voir des gouverneurs essayer de se positionner sur cette question comme en Floride. Et le gouvernement fédéral, l'administration Biden vont battre ces États.
Alors que les efforts pour vacciner davantage de personnes se poursuivent, certains États et des grandes villes sont prêts à assouplir les règles concernant le port du masque. La maire de la capitale fédérale, Washington, Muriel Bowser, a déclaré que l'obligation de porter le masque à l'intérieur serait levée cette semaine.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production pour la mise en onde. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.